Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour cette reprise d'émission Esprit Sport. Ça y est, on reprend les bases d'une émission solide en cette année 2024. Bonne année à tous et à toutes. On va passer cette année on va commencer cette année avec une émission très dense. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, c'est la voix de la raison, il est de retour en plateau. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Comment ça va Erwan?
Bah ça va très bien, bonne année à tout le monde. C'est vrai que ça fait quelques semaines que on s'est pas vu, on s'est pas entendu.
Effectivement, ça on s'est entendu mais on s'est pas vu.
Oui.
C'est à distance.
Encore plus de semaines. Mais là, il y avait eu les émissions de Noël, on reprend doucement.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on vous invite à aller réécouter toutes ces émissions en podcast, évidemment, pour pouvoir vous délecter de tout ce qui s'est passé pendant cette période de fête. Alors, on va faire un test. on va voir si ça marche. Hein. L'histoire d'Antoine Dupont n'a plus de secret pour elle depuis Noël, puisqu'elle a eu le livre sur le numéro 9 du Stade Toulousain. Alors, je ne sais pas si Anne-Françoise nous entend. Moi, je l'ai en face. Je sais pas si elle nous entend, je sais pas si elle peut nous parler. Bonjour Anne-Françoise, on essaye? Elle nous entend pas. Bon, on va essayer de l'appeler autrement. En tout cas, elle va être avec nous dans quelques minutes, évidemment, pour cette émission, avec au programme les tops et les flops de l'émission. Ça, c'est quelque chose qui change pas. Je sais qu'au moins, vous avez bien travaillé. À suivre aussi un entretien en face à face avec une héroïne des temps modernes, Vanessa Morales, et infirmière, maman et détentrice du record d'ascension du Kilimandjaro. Elle a grimpé 7 fois, il me semble, le Kilimandjaro en Tanzanie. C'est déjà pas mal, le Kilimandjaro. Petit repère géographique. Donc, c'est en Afrique. Et c'est à Erwan?
C'est à... Comment ça?
C'est en altitude.
Ah, 6200.
Ah non, raté. Allez, essayez encore pour voir. Si je vous dis c'est 1891.
Bah c'est, je dirais que c'est hauteur du coup.
95.
Ah, ils ont rajouté 4 cm depuis.
Et oui, ils ont mis une bite de terre.
Voilà, vous l'avez entendu, elle sera avec nous. Bon, on va l'accueillir tout de suite. Bienvenue Vanessa.
Mais bonsoir.
Voilà, c'est moins compliqué pour venir ici dans nos studios que escalader le Kilimandjaro.
Honnêtement, pour moi, c'est plus compliqué de venir chez vous que d'aller sur le Kili, c'est sûr.
Mais les escaliers font du mal à tout le monde, ça je vous rassure. On va donc retrouver cet entretien dans quelques minutes. Retour à Revel aussi après le match du PSG. C'était dimanche soir avec Léo Garonnet. Paul Albedel, rédacteur en chef de La Voix du Midi Lauragais, sera avec nous. Il nous parlera de cette soirée extraordinaire qu'ont vécu les Revellois malgré la lourde défaite. Et évidemment, nous entrons cette année dans cette année olympique avec les JO à Paris. Et justement, sommes-nous trop négatifs sur ces JO? On en parlera dans le débat du jour et on terminera cette émission avec le pronostic et l'analyse de match du week-end. Mais tout de suite, on commence par l'information sportive de la région. C'est tout de suite et c'est avec Corinne Saint-Félix.
Avec Corinne Saint-Félix.
En foot, fin d'une belle rencontre pour le club de Revel battu par le PSG.
Oui, hier pour la deuxième fois de son histoire, le club de foot de cette commune de Haute-Garonne, actuel pensionnaire du championnat amateur de Régional 1, disputait les 32e de finale de la Coupe de France sur la pelouse du stade Pierre Fabre de Castres. L'USR a défié le meilleur club français du moment, le Paris Saint-Germain. À sa tête, son capitaine Kylian Mbappé. Finalement, Revel s'incline 9-0, mais aura fait rêver ses supporters.
Et on en parlera un petit peu plus avec Paul Albedel lors de la chronique juste après une petite musique qu'on écoutera ensemble. Un autre club qui a subi les foudres du PSG.
Et oui, en trophée des champions, le Paris Saint-Germain s'est défait 2-0 du Toulouse Football Club. Un scénario dur mais attendu en ce mercredi 3 janvier. Le TEF s'est fait surprendre en début et fin de période.
En rugby, le Stade Toulousain débute 2024 par une belle victoire.
45-0 contre Lyon samedi à Ernest Vallon. Le match à sens unique a rapidement tourné à la démonstration. Toulouse repart avec le maximum de points et Lyon reste à l'avant-dernière place du championnat. Prochain match sur la pelouse d'Ulster en Coupe d'Europe de rugby, ce sera le samedi 13 janvier à 21h.
En Spike League, les Spacers se sont pris les Nantais.
Impossible de faire chuter Nantes chez eux. L'équipe invaincue depuis le début de la saison a su contrecarrer 1-3 les plans toulousains. Les Nantais sont 3e et les Toulousains 6e.
En basket maintenant, les Tarbes Rodez s'impose à Villeneuve-d'Ascq.
En déplacement chez les secondes du championnat, les Bigourdan se sont imposés 67 à 63 au terme d'une prestation de haute volée portée par les retours de blessures de Marie-Paul Fopossi et Serena Kessler. Les Tarbaises ont su s'imposer à Villeneuve-d'Ascq, deuxième du championnat avant l'entre-deux. Les Bigourdan ont infligé aux nordistes leur deuxième défaite de la saison à domicile. Une victoire importante pour le TGB qui recolle au top 5 en comptant son match en retard contre Charleville-Mézières le 24 janvier.
Bastien Burguière a remporté la détox du COS en course à pied.
Tout format confondu, ils étaient 550 en lice ce dimanche. Vainqueur du trail de 11 km de la détox du COS à Sébazac, Bastien Burguière n'avait pas prévu de s'aligner au départ de la première épreuve du Challenge Aveyron de l'année. Le coureur de 26 ans, également adepte des quilles de 8, s'est montré le plus rapide sur le parcours tracé à travers le Causse-Comtal, balayé en ce dimanche matin par un vent glacial.
Et pour la cinquième année de suite, le Rally Raid Dakar se dispute en Arabie Saoudite jusqu'au 19 janvier.
451 autos, 179 motos et 51 camions ont pris le départ de la 46e édition du Dakar en Arabie Saoudite pour rejoindre Yanbu au terme de 14 jours de course et 12 étapes. Avec près de 5000 km de spécial à travers ruines archéologiques, paysages désertiques et rivages de la mer Rouge, la cinquième édition saoudienne est annoncée comme la plus relevée de la série en cours et comporte 60% de portions inédites. Parmi les coureurs, un Aveyronnais, Jean-Rémy Bergoun, 59 ans, ancien cascadeur, aujourd'hui chef d'entreprise, c'est son sixième Dakar.
Et d'ailleurs, j'en profite, vous qui êtes autour de la table, le Paris-Dakar, est-ce qu'on le suit ou est-ce qu'on le suit pas du tout, Erwan ?
On le suit de loin.
On le suit de loin, ouais, en France, quoi.
Oui, en France et même de loin, d'un point de vue médiatique et spectateur.
Ah oui, d'accord, pas du tout intéressé. Anne-Françoise est avec nous, bonjour Anne-Françoise.
Eh oui, bonjour.
Voilà, ça y est,
on
a retrouvé la liaison. Comment ça va ?
C'est ça, ça va bien.
Depuis,
ça va bien.
Depuis l'année dernière.
Autour de la table ? Eh oui, c'est ça. Ben, pas mal, hein, avec quelques kilos de dinde et de galettes d'héros en plus, et puis voilà.
Il va falloir,
se remettre au jogging.
Comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un autour de la table qui peut vous aider. Vous allez voir, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur dans quelques minutes. Vous, Anne-Françoise, le Paris-Dakar?
Il y a des voitures électriques. Non, moi je suis désolée.
Il y a des voitures électriques.
Ouais. Ah, alors j'avais pas vu ça. Peut-être que ça me promet un petit sujet de chronique pour une prochaine fois. Quitte à faire du sport mécanique, je vois pas l'intérêt. Mais bon, ok. Non, je suis pas très sport mécanique. Vous savez, moi, Jonathan, je préfère les chevaux avec des sabots.
C'est vrai que c'est plus écolo.
C'est ça.
Est-ce que vous suivez Vanessa le Paris-Dakar?
Non, il y a moins de neige. Je suis pas. Ouais.
Non. Non, on est très terre à terre dans cette émission. Voilà,
très très.
Nous, on est très avec les pieds et basta. Ouais. Voilà, tout de suite, on retrouve les tops et les flops de l'émission de ce jour.
Les tops et les flops.
Eh bien, on va faire maintenant qu'on a réussi à avoir Anne-Françoise. Anne-Françoise, on vous laisse commencer ces tops et ces flops du week-end.
Allez. Commençons. Comme top, j'ai un truc, alors pas forcément 100% sport, mais je voulais vous raconter l'histoire, en fait, de deux boxeurs qui, à Marseille, ont sauvé un homme de la noyade. En fait, c'est l'ancien champion du monde, Mehdi Sanoun, qui a sauvé, en fait, un homme qui était en train de se noyer, en fait, à la Pointe Rouge. Voilà, ils ont pas hésité, ils ont sauté, ils se sont encordés à un bout d'amarrage, ils se sont jetés à l'eau en caleçon, donc on imagine bien la température. Voilà, donc la personne était en hypothermie, il n'avait pas de combinaison et en fait ils ont réussi à le sauver. Il a été pris en charge ensuite par les secours. Donc ça, c'est mon top du week-end. Et comme flop, alors en fait c'est un semi-flop parce que ça dépend un petit peu de quel côté on regarde, c'est un peu comme les cartes. Je voulais parler de Toulon qui a permis à Montpellier de se relancer en rugby. Voilà, donc quand on se déplace chez la Lanterne Rouge, en général il faut quand même faire attention. Et là, bah, je pense que les Toulonnais sont un peu tombés dans le piège. Alors du coup, côté Toulon, ça fait flop. Côté Montpellier, je pense qu'ils sont quand même... c'est un gros top parce que c'était quand même très compliqué pour eux. Ça leur permet de remonter, alors pas tout à fait à la hauteur de Oyonnax, mais pas si loin, je crois, 4 points. Ils sont derrière que de 4 points. Donc ça redevient... voilà, ils se remettent quand même, ils se relancent un petit peu là en début d'année 2024. Et tant mieux pour eux.
J'avais lancé un débat. On dit Oyonnax ou Oyonnax?
Oyonnax, il me semble.
Ah, ben, je sais pas.
Qui est né à côté, qui a grandi à côté.
Oyonnax, alors. Pardon.
Il n'y a pas grand monde dans l'Ain, donc pas grand monde.
Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de TFC Auxerre, donc on ne dira pas Auxerre ou Auxerre. Voilà, ça, on sera tranquille, Anne-Françoise, de ce côté-là.
Voilà. Mais c'est bon, alors je suis sauvé.
Le top, ça fait du bien d'avoir des informations comme ça. Puis peut-être qu'on a créé une nouvelle discipline, la boxe natation. On a bien fait.
La boxe natation, la natation attachée à un amarre. Remarque, la natation en eau froide, c'est une discipline qui existe. En fait, moi, à mon travail, j'ai un collègue qui a fait partie de l'équipe française de natation en eau froide. Il m'a dit qu'il n'y avait pas mieux pour perdre du poids parce qu'en fait, quand on nage en eau froide, on consomme tellement de calories qu'en fait, ils sont obligés de se gaver. Ouais, donc, je lui ai dit que j'essaierais ça, puis je n'ai jamais eu le courage.
Erwan, votre top et votre flop, il me semble que c'est très bien porté sur la ville rose.
Et oui, effectivement, même une grosse touche de violet, parce que moi, mon top et mon flop, ça va être le TFC, et les deux en même temps, parce qu'en fait, le top, je vais dire la victoire, 3-0 en Coupe de France, donc le TFC, ils sont champions de la Coupe de France, et ils sont bien partis pour leur entrée en lice dans la nouvelle édition de la compétition, en gagnant 3-0 contre Chambéry, donc on est content, il y a une large victoire, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, le TFC a un peu de mal à se défaire de ses adversaires ces derniers mois, et même a un peu de mal à être réaliste, là on a 5 tirs cadrés, 3 buts, que demander de plus? En plus, avec Nathan Skita, qui est très, très attendu de la part des supporters, et qui a mis un doublé. Enfin, on va dire que c'est un doublé, hein, parce que il y a un but, c'est un contre son camp d'un défenseur de Chambéry, mais ça a été compté comme un doublé pour Skita, donc voilà, grand bien lui fasse. Mais, et voilà, donc, on était tous très contents en voyant ce 3-0. On s'est dit, chouette, le TFC retrouve des couleurs, alors qu'ils sont sacrément pâles depuis, quelques temps. Et puis, en flop, je voulais parler de l'entraîneur Martin Carles-Noël, qui a dit que c'était peut-être le pire match depuis qu'il était arrivé à Toulouse. Ce qui veut dire que quand on gagne 3-0 et qu'on offre un jeu ouvert et léché, comme ce qu'avait pu montrer Philippe Montagnier, et ce qui avait fait revenir le public toulousain dans les stades et ce qui avait permis à Toulouse de retrouver l'intérêt du public, et ben là on dit qu'on fait son pire match, on le gagne largement, on fait une entrée en lice dans la compétition où on domine, pas forcément dans le match qui a été plutôt disputé, mais en tout cas dans le score très largement, une équipe d'un niveau bien faible, enfin bien moindre, je veux dire, tout du moins. Et voilà, on n'en est pas d'accord. Il faudrait peut-être rappeler à Martin Carles-Noël que du coup, le PSG, pas du tout, ça c'était contre Revel, que le TFC n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 1er octobre et une victoire 3-0 contre Metz. Donc ça fait 3 mois que le PSG n'a plus gagné en une compétition nationale. Il a fallu attendre le retour de la Coupe de France et un match contre Chambéry pour avoir une victoire sous nos frontières en dehors de l'Europa League. Et le coach trouve quand même le moyen de dire que c'est le pire match depuis qu'il est arrivé.
Ouais, ça c'est un petit peu mitigé là. On se demandait si Carlos Nouvel allait rester après décembre, mais finalement il est là. Bon,
pourquoi?
Est-ce que l'histoire d'amour va durer jusqu'à la fin de la saison? Pas sûr.
Oui. On va voir. C'est vrai que la CAN va peut-être handicaper d'autres équipes plutôt que le TFC qui pourraient profiter de ça pour s'éviter une relégation.
Il y a des joueurs, il me semble.
Ouais. Mais il y a des équipes comme, bien évidemment, Metz, avec ses nombreux centres de formation en Afrique, souffrent souvent de la CAN. Il y a même une petite blague dans les supporters qui disent que, à chaque fois, Metz, qui dit année de CAN dit relégation pour Metz. Voilà. Ah. Bon, on verra, mais c'est vrai que le TFC peut peut-être profiter, une suite de matchs et puis d'un calendrier, on va dire, un peu favorable.
La mention honorable, c'est le TFC, une nouvelle fois, qui, on va parler argent, là ça va plaire, qui a laissé toute la recette du match en Coupe de France face à Chambéry. Vous savez, il y a des billets, il y a plein de choses qui sont faites pendant ce match, et en fait, il y a une recette à la fin, et cette recette, normalement, la tradition veut qu'en Coupe de France, les gros clubs la laissent aux petits clubs. Et bien là, pas moins de 35 000 euros pour le club de National 3, Chambéry. 35 000 euros, c'est pas mal, hein, parce que National 3, c'est 480 000 euros de budget seulement. Ça fait plutôt du bien dans les caisses. Un geste qui n'est pas obligatoire. On appelle ça grand seigneur, hein, c'est quand on laisse la part des choses. Chose que n'avait pas fait l'OM quand ils ont joué face à Chauvigny en 2002. Ils n'avaient laissé que 50 000 euros sur les 70 000 euros de recettes. Donc Marseille est parti avec 20 000 euros. Bon, là aussi, Chauvigny, pensionnaire de N3, on pense qu'on en veut. En tout cas, le TFC a été grand prince de laisser toute la recette ils auraient pu en garder une partie. On sait que le TFC c'est pas la plus grosse, le plus gros budget de Ligue 1.
Non, je suis pas sûr qu'ils aient les plus gros salaires non plus.
Non, mais bon, voilà, on applaudit le
et oui.
Voilà, quand ça
ouais,
va pas,
le geste est beau, hein.
quand ça va pas, on le dit. Quand ça va, il faut aussi dire quand même que c'est sympa.
Bien voilà. sûr.
Du 35 000 euros si jamais Esprit Sport vous pensez à nous. Voilà, c'était les petites bonnes nouvelles de ce début d'année. Tout de suite, on va passer à l'invité du jour.
Esprit Sport, le face-à-face.
Et vous l'avez entendu si vous êtes avec nous depuis le début de cette heure, Vanessa Morales est avec nous. Bienvenue dans Esprit Sport, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui avec nous, ici, répondre à nos questions.
Ben bonsoir et puis merci pour l'accueil.
Alors, je vous ai présenté comme étant une héroïne des temps modernes. Est-ce que ça vous va
wow.
comme sujet?
C'est quand même pas mal, héroïne des temps modernes.
Oui, parce que vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes maman,
oui.
vous êtes infirmière de formation.
Oui.
Vous avez été sapeur-pompier dans les Pyrénées-Orientales.
Oui.
Et vous êtes détentrice du record du monde de l'ascension du Kilimandjaro en 11h33 aller-retour.
C'est ça.
Voilà, félicitations. Voilà.
Ah oui,
Anne-Françoise, voilà. C'est voilà, héroïne des temps
mais
modernes.
Mais je nage pas en eau froide, voilà.
Ouais, voilà. c'est pas grave.
Ouais,
je pense qu'il y a suffisamment de marche pour.
Faut pas tout faire non plus, hein.
Ouais.
Vous pouvez dire que vous avez pas le temps.
Ouais,
c'est possible
ça.
Aussi. Voilà, héroïne des temps modernes. Est-ce que autour de la table, vous avez peut-être un autre adjectif? J'ai trouvé ça pas mal parce que je pense que même nous, on n'est pas capable de faire la moitié des choses. Enfin, déjà nous, Erwan, on sera pas maman. Déjà
bon,
ça, c'est sûr.
Déjà, c'est sûr, voilà.
Mais, moi, c'est le seul truc que je peux cocher.
Voilà. Mais de infirmière, on sait que c'est métier compliqué. Kilimanjaro en plus. Puis en plus, pas le job de maman, mais être maman, c'est aussi très compliqué. Comment vous faites pour avoir tout ça, faire tout ça?
Je pense que c'est un mode de vie, c'est une habitude et parfois, là par exemple j'étais arrêtée pendant quelques mois puis par rapport à une blessure, je m'ennuie très vite. Donc dès que j'ai pas mes 20 heures ou 25 heures d'entraînement de semaine en plus de mon rôle de maman et d'infirmière, j'ai un vide. Donc voilà, c'est vraiment un mode de vie, oui.
Donc si on vous offre un lit, une couette, un oreiller à Noël, ça va pas vous aller parce que non, c'est pas ça qui vous.
Je l'abîmerai pas trop.
Non, c'est ça. Alors une maman qui vous avez une maman qui travaillait sur les pistes de ski. Donc vous avez eu un parcours en tant que sapeur-pompier en 2005 dans les Pyrénées-Orientales. En fait, vous étiez destiné à faire de la montagne un petit peu votre parc de jouets quoi.
L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai grandi à Font-Romeu. Et à Font-Romeu, dès qu'on apprend à marcher, on nous colle des chaussures de ski ou des patins aux pieds. Moi, pour le coup, j'ai eu les deux, j'ai eu les skis et les patins. Donc j'ai commencé très tôt le sport à l'âge de 4 ans par le patinage artistique et j'ai eu la chance d'être en sport études. Donc là, c'est déjà une prise en charge, alors on va dire de moyen niveau à l'époque, mais voilà, qui me mettait déjà dans le bain. Et puis, vu que ma mère travaillait sur les pistes de ski, notre garderie avec ma sœur, c'était les pistes de ski. Donc le sport et la montagne, c'est juste une évidence. Je me suis jamais posé la question de pourquoi, puisque c'est normal, ça fait partie de ma pièce d'identité. D'ailleurs, je m'appelle Vanessa Neige et je pense que c'est pas pour rien.
À part ces périodes où vous étiez enfant à la montagne, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre de l'altitude? Parce qu'on a parlé du Kilimandjaro. Alors, je suis pas bon en maths, mais je pense que c'est un poil au-dessus de Font-Romeu. Qu'est-ce qui vous a pris de, comme ça, aller faire des grands sommets?
Honnêtement, au départ, je m'amusais à enchaîner les 3000 des Pyrénées. Donc, plutôt que de faire un seul 3000 sur une journée, j'en faisais 3 sur 3 jours, ou un peu plus. Et puis, progressivement, j'ai pris conscience, grâce à des personnes qui m'entouraient, que j'arrivais à courir sur des zones qui étaient un peu techniques, et puis avec l'altitude, et dans des zones où d'autres avaient du mal à marcher. Et j'ai été contactée en 2019 par une jeune femme qui est atteinte de sclérose en plaques, qui avait un rêve, qui était de gravir le Kilimandjaro. Et donc, on devait le faire ensemble, sauf que cette jeune femme a eu des problèmes liés à sa pathologie. Et donc, elle a renoncé au projet. Et là, je me suis dit, je vais le faire pour elle. Et puis, j'ai regardé un petit peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait des records féminins qui avaient été posés sur cette montagne. Je me suis dit, il y en a qui l'ont fait en temps d'heure. Moi, j'ai pas du tout le niveau, mais je vais le tenter sur la journée. Et je suis partie m'entraîner en Tanzanie. Et à 6000 mètres d'altitude, je faisais mon footing sur le plat du Kilimandjaro. J'arrivais à trotter alors que je voyais tout le monde marcher. Il y en a qui vomissaient, qui étaient vraiment mal. Et en rentrant, je me suis dit, mais il se passe un truc bizarre. Je dois avoir des globules rouges différents de ces gens-là. Et voilà, et là, on m'a fait prendre conscience que j'avais ce potentiel de courir à très haute altitude. Donc je suis pas une championne ici à basse altitude, mais là-haut j'arrive à m'éclater. Et donc voilà, et puis je suis tombée amoureuse de cette montagne et je l'ai faite 3 fois en courant, plusieurs fois en expédition classique. Et voilà.
Ouais. C'est 5895 mètres.
C'est
voilà.
Ça.
C'est en bas, c'est compliqué. J'aurais dû mettre super héroïne parce que quand même c'est quand même compliqué. Les hauts sommets. On connaît donc du coup le Kilimandjaro. Mmh. Qu'est-ce que vous avez fait en dessous ? Parce qu'on passe pas de 3000 dans les Pyrénées à presque 6000 d'un coup comme ça.
Bon, après,
c'est quoi
j'ai
la préparation entre les deux étapes ?
Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de sommets à très haute altitude. Bon, le Mont Blanc, voilà, qui est un
incontournable. C'est facile. Je le
mais
fais à mon
après, c'est surtout que sur des expéditions comme ça, je me prépare alors au CNEA à Font-Romeu, au centre d'entraînement. Et je travaille beaucoup en hypoxie. Donc en gros, on est dans une cabine qui est hermétique et on simule la haute altitude. Donc en fait, je fais mes séances de course à pied à 4000, 5000 mètres d'altitude ou mes séances de vélo.
C'est une machine qui réduit le taux d'oxygène dans la pièce.
Exactement.
Ou, avec un masque ou c'est vraiment dans la pièce?
Non, c'est dans la pièce. Et puis à la maison, ben, j'ai une tente hypoxique. Donc c'est un partenaire hein, qui très calti qui me prête le matériel. Et en fait, je dors dans ma tente qu'on met autour de mon lit. Donc c'est un peu la tente de princesse, sauf qu'il n'y a pas trop d'oxygène dedans.
C'est sympa ça, qu'on peut
ça me permet.
Mais oui, ça fait des nuits particulières.
Mais c'est peut-être ça le secret de la conservation de la Belle au bois dormant, en fait.
Ouais,
peut-être.
C'est la tente hypoxique.
C'est une belle façon de faire, de camper dans sa tente, dans son jardin, mais avec une réduction d'oxygène. Ouais. Comment justement on s'y prépare ? Donc vous nous l'avez dit pour ce manque d'oxygène, parce que à 5800 mètres, presque 5900 mètres, ben, l'oxygène diminue. Ouais. Mais le froid, ça c'est quelque chose, on ne dort pas dans un frigo.
Non, alors le froid, je pense que c'est plus une question d'habitude et d'équipement. Clairement, l'équipement, ça fait partie de la réussite du projet. Ce qui est assez compliqué quand je le fais en courant, c'est qu'on passe plusieurs paliers. Donc jusqu'à 4000 mètres d'altitude, on va dire que le froid est gérable. Mais si passé 5000, il peut faire du moins 10 ou... Moi, j'ai déjà eu du moins 18 sur le Kilimandjaro. Sauf que je ne m'équipe pas comme en expédition classique, puisque l'idée, c'est d'aller vite. Donc on limite le poids. Et limiter le poids, ça veut dire limiter les grosses doudounes et tout ça. Donc le froid, on s'habitue et on essaie de s'équiper au mieux et puis il faut serrer les dents quoi.
Ah oui, alors on sait de la radio, on n'a pas l'image. Enfin vous n'avez pas l'image. Tous les doigts, tous les orteils, les oreilles, le nez, c'est bon.
J'ai tout pour le moment, je touche du bois.
C'est quand même, voilà. On réduit le poids en mettant pas tant de couches que ça, mais au final, voilà, on bat le froid comme ça. L'aspect mental dans ces épreuves-là. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à travailler ou de plus long à travailler, parce que l'appréhension du froid, de l'échec d'un projet, parce que c'est pas seulement juste une expédition, hein, c'est un projet. Comment vous faites pour le travailler, ça?
Alors, mon entraîneur dit souvent que je suis plus forte dans la tête que dans les jambes. Et
ouais,
je crois
ça.
Que ça, c'est vraiment mon point fort. C'est-à-dire, ouais, que j'ai le mental qui m'aide beaucoup. Je pense que sur une course comme ça, c'est 80% de mental qui fait qu'on arrive au bout de l'objectif.
Vous puisez ce mental peut-être à travers les gens que vous rencontrez. Vous nous avez parlé de cette dame qui n'a pas pu faire cette ascension au début avec vous. En 2021, vous avez fait aussi une ascension, l'approche du Kilimandjaro avec une personne là aussi atteinte de sclérose en plaques qui avait un exosquelette
voilà,
des jambes mécaniques voilà. C'est ces parcours là, ces motivations là qui vous poussent à vous donner et à faire cette fois le Kilimandjaro.
Ouais.
Bientôt 8.
Oui, ben je repars dans un mois là sur le Kilimandjaro avec Olivier.
Voilà, si vous le réécoutez, on est début janvier. Si vous l'écoutez début février, ben voilà, dites-vous que là actuellement, ben Vanessa Morales, elle est à 6000 mètres.
Voilà, ouais, c'est ça.
Vous faites la vaisselle et il y en a qui montent le Kilimandjaro.
C'est ça.
C'est ça. Maintenant, c'est ma cuisine, c'est ma maison, le Kilimandjaro.
Comment on s'inspire de tout ça ? Parce que vous puisez un petit peu dans l'histoire de chacun.
En fait, évidemment, ça me donne de la force, ça m'aide à relativiser la difficulté que moi je rencontre sur une journée. Par exemple, sur un record du monde, bah oui, c'est une journée compliquée, mais pour ces gens-là, c'est un quotidien compliqué. Et après, évidemment, il y a aussi une histoire de vie. Il y a ma propre histoire de vie qui m'a amené à pousser mon corps comme ça, à aller chercher des limites. Moi, comme je dis souvent, c'est que plus je monte à haute altitude et plus je me rapproche des miens. Et il y a notamment ma maman qui nous a quittés il y a 13 ans. Donc voilà, je vais puiser une force intérieure à travers ces gens qui sont atteints de différentes pathologies. C'est un peu ma motivation et surtout de les amener après dans ces aventures, parce que à eux aussi ça leur donne un nouveau rebond. Souvent en rentrant, ils ont un second souffle quoi.
Et il me semble que les alpinistes disent si la montagne veut pas que tu grimpes, tu grimpes pas.
Ouais.
On peut avoir toute l'envie du monde, si la montagne n'a pas envie, c'est pas possible. Et vous l'avez dit dans une précédente interview, plus je suis en altitude, mieux je me sens. La montagne est clairement une terre de passion. On va pas à la montagne pour. On peut aller à la montagne pour se promener, évidemment, mais quand on atteint des altitudes élevées, c'est pas seulement une randonnée, c'est vraiment un projet, un voyage à préparer.
Vraiment, c'est un projet, c'est un lien aussi qu'on crée avec la montagne. Moi, je sais que ça peut paraître très bizarre, mais je suis vraiment amoureuse du Kilimandjaro. Là, je projette un 7000. Alors, on est presque à 7000 mètres sur la Aconcagua, mais voilà, c'est une montagne qui me fascine. J'ai envie de la rencontrer. Et aller courir sur une montagne, c'est pas je décide d'aller courir sur la montagne et de gravir une montagne. En fait, c'est que j'apprends à la connaître. Si le feeling passe, ben je cours dessus. Si elle me laisse courir, si elle me laisse pas passer, ben je passerai pas. Faut rester humble face à ces éléments, quoi. On maîtrise rien et du coup, j'essaie d'être hyper respectueuse de ça et très progressive. Là, j'ai en tête d'approcher les 8000 de la chaîne de l'Himalaya, mais en fait, ben je prends le temps parce que c'est voilà.
Puis si vous entraînez assez, les 8000 facile.
Facile, non, je pense qu'à 8000
le record du Kilimandjaro avant, il était à 13h, vous l'avez éclaté en 11h53.
33.
Vous avez vu en plus. 11h33. Ouais. Donc il y a plus assez facilement, je pense, parce que vous nous avez dit que vous l'avez fait assez fin, que vous aviez grimpé, vous vous sentez mieux en altitude.
Ouais.
Forcément un petit peu de préparation. Combien de temps ça va vous prendre de préparer peut-être l'Everest ou les 7000?
Ben en fait, alors juste pour faire la petite parenthèse sur le record du Kilimandjaro, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai battu le record, j'ai fait trois fois le Kilimandjaro sur la semaine. Parce que la première fois, je l'ai fait pour m'acclimater. Il y avait Julien Védani donc avec moi, qui avait son exosquelette. Ensuite, je l'ai retenté en courant, ça s'est mal passé, on l'a fait en 15 heures. Et deux jours après, en fait, j'ai pété les plombs, j'étais en Tanzanie. Puis moi, farniente au bord de la piscine, c'est pas du tout moi. Et je suis repartie le faire en courant, et c'est ce jour-là où j'ai claqué le record de vitesse. Donc, et après, pour préparer le reste, bah, c'est un an de préparation. Là, pour la Aconcagua, par exemple, j'y vais en janvier, donc 2025, ça a été reporté suite à une grosse blessure. Mais voilà, c'est un an de préparation très spécifique à la haute altitude et à l'ultra-endurance, puisque c'est des courses là de 20 heures. Quoi.
J'ai perdu ma question, Erwan.
Moi, j'avais une petite question. Je me demandais si c'était exponentiel la difficulté ou s'il y avait des paliers qui se sentaient vraiment au niveau de l'altitude.
Alors, pour ma part, parce qu'on est tous différents, moi, je sais que le coup de bambou, en général, je l'ai à 5300 mètres d'altitude. Donc déjà, ça me laisse de la marge. Ça me laisse avancer pas mal jusqu'à 5000, on va dire. Et voilà, et après je peux aussi prendre une claque un peu plus haut. Ça dépend vraiment de tout. Il y a la météo qui joue beaucoup. Le froid, on en parlait tout à l'heure. Quand on court sur un volcan, on a aussi les odeurs de soufre par moment. Et ça étouffe un peu.
Oui, Kilimandjaro, c'est un volcan éteint.
Voilà. Et endormi, malgré ça, on endormi. Et on ressent quand même parfois les odeurs de soufre. Et ça nous prend les bronches. Donc ça joue sur le respiratoire. Et forcément, ça veut dire qu'on respire moins bien, on oxygène moins bien les muscles, donc c'est plus compliqué.
Et on connaît tous l'Everest de nom, le Kilimandjaro, parce que c'est des montagnes iconiques qui font partie de... Oui. Pas forcément de l'imaginaire collectif, parce qu'elles sont bien réelles, la preuve. Mm-hmm. Vous l'avez monté un nombre que n'importe qui n'arriverait même pas à imaginer faire une seule fois. Quelle est la montagne la plus dure à gravir? Est-ce que c'est l'Everest? Est-ce que...
On peut dire que l'altitude, oui, c'est le plus compliqué, mais...
En tout cas, dans votre discipline, c'est-à-dire avec la volonté de le faire le plus rapidement possible, bien évidemment.
Alors après, c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de montagnes vierges, par exemple, et elles font partie des montagnes les plus dures du monde à gravir. C'est pas forcément parce qu'on va à 6000 mètres ou à 7000 mètres ou à 8000 qu'il y a une difficulté technique. Par contre, au niveau physiologique, évidemment, l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, donc l'engagement physiologique, c'est le plus dur sans oxygène. Parce qu'avec de l'oxygène, ça reste compliqué. Hein. C'est un Everest, il ne faut pas croire que c'est facile parce qu'on a une bouteille d'oxygène. Mais plus on monte et plus c'est compliqué.
D'accord. Et l'Everest, c'est un projet pour l'avenir ou...
J'ai eu la chance de passer du temps face à l'Everest. Pendant la première période de Covid, j'étais avec Sophie Lavaux, qui est une super alpiniste. C'est ma grande sœur de l'alpinisme, on va dire. Elle préparait un 8000, le Dolagiri. Et j'ai fait un trek avec elle dans la vallée du Khombou. Donc j'ai passé 15 jours face à l'Everest. Puis au départ, je me disais non, pas forcément par rapport à la médiatisation justement de cette montagne et puis tout ce qu'on entend. Et au final, il y a une face nord qui existe de l'Everest, qui est beaucoup plus engagée au niveau physiologique quand on l'a fait sans oxygène, moins technique. En fait, ça m'a fait rêver. Donc il est dans un coin de ma tête. Ce sera pas mon premier 8000 parce que le premier je l'ai déjà programmé. Il s'appelle le Manaslu, donc il est moins connu, mais pour autant il est à 8163 mètres aussi d'altitude. Voilà, c'est un des premiers en tout cas que je tenterai d'aller toucher.
D'accord. Et qui est du coup? Dans quel pays?
Et il est dans la chaîne de l'Himalaya aussi. Ah bah
parfait, ouais. Tout au même endroit, c'est incroyable.
Oui, bah elle a fait le Kilimandjaro 3 fois en une semaine. Pourquoi pas faire l'Everest
un Manaslu ou un Everest, ouais.
Vous faites ces... Donc on a parlé des gens avec qui vous partagez ces projets de grimper l'Everest, de faire l'ascension du Kilimandjaro, pardon. C'est aussi voir les populations, leur mode de vie. Sur ces conditions compliquées, parce qu'il y a des gens qui vivent dans les chaînes de l'Himalaya, dans la chaîne de l'Himalaya, au Kilimandjaro, je pense pas.
Alors pas dans le parc national, mais au pied du Kilimandjaro, on a, oui,
évidemment. Justement, ça vous permet de voir aussi les gens qui y vivent. Ça fait relativiser quand on rentre en France.
Ben vraiment, et puis ben on revient un peu sur l'histoire d'un projet. Un projet d'un Kilimandjaro, moi j'en ai un peu, comme on dit, rien à péter de la performance propre. En fait, c'est toute une histoire qui m'amène à aller chercher ces performances. Et puis sur un Kilimandjaro, ben je suis pas toute seule. Sur un Manaslu, je serai pas toute seule. Il y a toujours une team derrière. Hein. C'est le collectif qui fait qu'on arrive à ces performances. Et c'est sûr que quand on voit des gamins de 6 ans se taper 45 minutes à pied pour aller à l'école à 5000 mètres d'altitude avec un moins 5, moins 10 degrés, bon, ben on rentre à la maison, on se plaint un peu moins d'avoir la voiture en panne et voilà. Et le côté africain, évidemment, c'est pareil, quoi.
Ah, et j'aurais aimé savoir, c'est quoi la journée type quand on se prépare, quand on s'entraîne? Est-ce qu'on y passe une journée entière? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure, un peu tous les jours? Comment ça se passe?
Alors, moi, c'est sur du long terme. Donc, c'est un entraînement quotidien, voire bi-quotidien. Je peux avoir 2 séances d'entraînement dans la journée. Quand je suis en stage d'entraînement, parfois, c'est 3 séances dans la journée. Après, c'est vraiment des périodes que mon entraîneur va vraiment calculer, réfléchir en fonction de la date de l'objectif. Donc il y a plusieurs stages dans l'année qui sont calés à fond romeu. Et là, ben voilà, c'est vraiment rythmé par des journées complètes d'entraînement. Là, en ce moment, je suis dans une période un peu creuse, donc ben, je travaille en tant qu'infirmière en parallèle et puis je m'entraîne le soir à la maison, voilà, tous les jours si possible. Et le week-end, on tente les sorties longues en montagne ou à vélo. Mais ouais, c'est quand même un quotidien, quoi.
Et comment on finance le fait de pouvoir aller en Tanzanie pour battre de tels records?
Alors ça, c'est toujours pareil, c'est un peu le plus compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelques partenaires fidèles, donc des sponsors fidèles et voilà, qui m'aident financièrement à financer une partie de l'expédition. Après, ben c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est voilà, je travaille en parallèle aussi pour ça et puis recherche de sponsors actifs en permanence, quoi.
D'accord. Et le Kilimandjaro, il y a quoi de si particulier? On a compris que vous aimiez beaucoup cette montagne, qu'elle avait une importance pour vous. Mais je pense que parmi les auditeurs ou même autour de la table, on n'est pas beaucoup à avoir déjà fait le Kilimandjaro. Donc on a du mal à se dire pourquoi cette montagne en particulier.
Alors moi, c'est cette montagne en particulier parce que déjà j'ai appris à la connaître. Et maintenant que je la connais, j'en suis encore plus amoureuse qu'avant. Et en plus, c'est une montagne qu'on peut courir. Donc moi, étant passionnée de course à pied, je m'éclate parce que je peux courir quasiment tout le temps. Alors pas sur le dernier tronçon, mais sur le Kilimandjaro, on peut courir tous les jours. Et en plus, elle a cette voie là, la Western Bridge, dont je parle très régulièrement. Je l'ai faite 3 fois. C'est une voie qui est fermée actuellement du Kilimandjaro. Ça dégage un truc que j'ai, pour le moment en tout cas, jamais ressenti sur une autre montagne.
Voilà. Pourquoi? Vous n'avez pas des petites images, des choses qui vous viennent en tête quand vous dites ça, pour qu'on puisse visualiser?
Ben, par exemple, je reviens sur la voie, la Western Bridge, hein, parce qu'il y a plein de voies sur le Kilimandjaro, mais il y a un camp de base qui s'appelle Haro Glacier. On est à 4900 mètres d'altitude et en fait, on a un gros mur en face et on voit ni le sommet, ni le passage. On ne sait pas du tout par où on va passer pour gravir ce mur. Et moi, quand je suis là, ben, en fait, je me sens toute petite et à la fois super grande parce que je suis à 5000 mètres d'altitude. Et ouais, je sais pas, ça c'est assez viscéral, c'est un peu particulier, mais parfois je lui parle. Hein.
Alors, moi, on n'est pas embêté par les voisins.
Ah non, là, sur cette voie-là, en tout cas, j'ai jamais croisé personne.
Là, il n'y a pas de nuisance.
Et du coup, moi, j'avais une question parce que si vous le faites en 11 heures, l'aller-retour, j'imagine que du coup, on est dans la course, dans l'ultra trail. Mais il y a des parties où il faut grimper, où il faut escalader.
Alors, sur la Western Bridge, il y a quelques petits passages où on pose les mains, donc c'est un quatre pattes, un peu grimpette, mais c'est pas très technique. Mais en fait, ce passage-là, il arrive à partir de 5300 mètres d'altitude. Donc en fait, on est hyper fatigué, on peut faire les mauvais choix parce qu'avec le manque d'oxygène, ben, on est moins lucide. Donc honnêtement, par toutes les autres voies, il n'y a rien de technique, il n'y a que cette voie-là où on pose un peu les mains, quoi.
Et quand vous parlez de l'Everest, enfin moi j'imagine l'Everest comme vraiment de l'escalade, de l'alpinisme, quoi.
Oh là, donc, c'est autre chose. En fait, tout ce qui est Everest et même tous les 8000, hein, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de l'Everest, mais il y en a 14 hein, de sommets à 8000 mètres d'altitude. Et là, ben voilà, ce sont des sommets où effectivement on est encordé, il y a un piolet, il y a des crampons, on est dans l'himalayisme, donc c'est différent de l'alpinisme aussi.
C'est une discipline à part entière, donc.
Voilà, c'est d'autres techniques de corps, de... D'ailleurs, les alpinistes n'aiment pas trop qu'on les compare aux himalayistes. Voilà, c'est.
Parce qu'ils sont jaloux.
C'est différent. C'est pas pour moi, c'est pas la même discipline en tout cas.
Il y a une concurrence entre.
Concurrence peut-être pas, mais différence oui.
Pour terminer, les projets hors ascension pour cette année 2024 ou 2025. Est-ce que vous accompagnez des sportifs ou des sportives, notamment peut-être?
Alors là, j'ai la chance d'être la marraine du collectif des sportives. Donc là, on fait un stage à Font-Romeu toute la première semaine de février. Et en gros, c'est pour accompagner des jeunes athlètes de haut niveau dans leur after sport. Voilà, parler un peu de l'après-carrière et tout ça. Et puis moi, j'ai 40 ans, je fais partie des vieilles maintenant. c'est un peu...
Excuse-moi, 40 ans, quand on refait le Kilimanjaro, bon, est-ce que l'âge là, pour le coup,
un peu, mais...
l'âge, pour le coup, c'est vraiment un détail, là. Hein, c'est vraiment des chiffres, hein, parce que, bon... Même nous, Erwan, à peine plus de 20 ans, est-ce qu'on est capable de faire le Kilimanjaro?
Non,
est-ce que déjà les marches du métro, c'est pas trop compliqué?
des fois, elles sont dures quand même, faut l'avouer, quoi.
Sachant que l'escalator est électrique.
En plus.
Non, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres projets hors sport?
Ben en fait, hors sport, pour moi, c'est compliqué. Il y a peu de projets hors sport.
Il y a beaucoup de place dans le sport.
Il y a surtout un projet auquel je tiens là énormément. Je pars au mois de février avec Olivier. C'est un monsieur qui est en soins palliatifs. Qui a donc un cancer qui est parti en cacahuète, comme on dit. Et donc là, le soin palliatif, ça veut dire beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous, on part sur son reste de vie. Donc, il lui reste beaucoup de choses à vivre. Et là, sa première grosse aventure, c'est le Kilimanjaro, fin février, avec son fils. Donc, pour moi, c'est pas un projet sportif. C'est pas un projet professionnel. C'est un projet de vie. Ouais, vraiment.
Erwan, Anne-Françoise, et je passe aussi à Corentin et Coraline qui vont l'écouter plus tard. Kilimanjaro 2025, on lance ça?
Dans un coin de la tête, peut-être.
Ouais, voilà. Très loin.
Vous bloquez la date.
Anne-Françoise, vous nous avez parlé de dinde et compagnie après les fêtes. Est-ce qu'on se fait un Kilimanjaro en 2025?
Non, moi, s'il n'y a pas besoin d'escalader, je veux bien.
Oui, il y a des passages vraiment où on n'escalade pas. Il y a zéro technique. Hein.
Ben voilà, super. On bloque la rando pour l'année prochaine.
Le projet Esprit Sport 2025, les amis.
C'est ça.
On valide.
Merci beaucoup, Vanessa Morales, d'avoir été avec nous pour ce petit entretien. On aurait aimé parler des heures encore, mais on a encore beaucoup de choses à voir dans cette émission, cette première de cette année olympique. Bon courage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024?
Que tous les projets aboutissent. Voilà.
On se retrouve après le Kilimanjaro, en fin février, début.
Ouais, allez. Et puis avant la Aconcagua.
Écoutez, nous ça nous va, vous savez où on est, vous toquez à la porte, on sera ravis de vous accueillir.
Okay.
Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous aujourd'hui et évidemment on vous accompagne, on vous encourage à aller voir peut-être les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, on me suit aussi sur les réseaux.
Voilà. Voilà. Ça donnera peut-être des vocations ou des envies de randonnée à certains.
Oui, et puis on organise des Kilimanjaro chaque année, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour l'organisation d'expéditions.
Ouais. Il y a 2025.
Voilà, 2025, on l'a trouvé, superbe. Merci beaucoup une nouvelle fois, et puis
merci,
on a hâte de vous retrouver après toutes ces ascensions. Dans quelques instants, nous allons retrouver le club de Revel avec Paul Albedel qui va nous en dire un petit peu plus. Mais on se retrouve juste après Charles Aznavour. Emmenez-moi, pas très loin, pas au Kilimanjaro.
Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. En que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La...
Voilà, emmenez-moi. On est de retour avec Charles Aznavour à l'instant. On n'est pas parti bien loin puisqu'on est revenu. Et tout de suite, on va parler d'une autre épopée, d'une belle épopée, mais qui a malheureusement pris fin.
Esprit Sport, la chronique.
On est de retour. Il y a quelques jours maintenant, il y a eu le PSG qui a affronté le club de Revel à Castres au stade Pierre Fabre. Et Paul Albedel y était. Bonjour Paul.
Bonjour Jonathan, bonjour à toute l'équipe.
Alors on vous a reçu juste avant le match. Alors, on n'était pas encore sûr de où allait se jouer le match. Maintenant on a vu le match. Bon, ça s'est mal terminé pour l'US Revel. Le résultat 9-0, net et sans bavure, mais il me semble que les Revellois et tout le monde a passé une bonne soirée au final.
C'était une très belle soirée, comme la Coupe de France peut nous les réserver entre donc un club amateur et un club professionnel. Et je peux vous assurer que même s'ils ont perdu 9-0, je pense que les joueurs de Revel garderont cette soirée comme voilà quelque chose de très positif. Il suffisait d'entendre notamment le capitaine et le gardien Cyril Garcia à l'issue du match qui disait que paradoxalement il avait pris beaucoup de plaisir sur la pelouse du stade Pierre Fabre en ayant pris pourtant 9 buts. Il en a aussi beaucoup arrêté, il faut dire, parce qu'il a quand même sorti un match assez extraordinaire. Moi j'ai trouvé un tout. En tout cas, en gagnant plusieurs face-à-face, notamment face à Kylian Mbappé. Et puis une ambiance incroyable pendant le match, mais aussi avant. Il faut savoir que le bus de l'US Revel est arrivé escorté par la police parce qu'il y avait tellement de bouchons autour du stade que le bus ne pouvait pas rejoindre dans le stade, donc il a fallu que ce soit les gendarmes qui viennent escorter le bus. Ça aussi, vous imaginez que pour des joueurs amateurs à l'intérieur du bus, on doit se demander un petit peu ce qui se passe. C'est des scènes auxquelles ils sont vraiment pas habitués. Et puis ils sont arrivés et les attendaient toute la foule revelloise avec fumigène. Enfin voilà, on se serait cru dans un match dans les plus belles ambiances de championnat en Ligue 1. Et voilà, ces joueurs amateurs, ils ont essayé de sortir du bus pour aller voir leurs supporters avant le match. Ça aussi, c'est un peu du jamais vu. Et ils ont fini à pied le chemin jusqu'au vestiaire. Et voilà, et comme là aussi le dit le capitaine, ils ont pris déjà une première claque dès l'arrivée au stade, et puis ils en ont pris ensuite d'autres en rentrant sur le terrain devant 10 000 spectateurs. Voilà, il faut rappeler quand même que l'hiver en moyenne, l'affluence du stade municipal de Revel, c'est 100 personnes. Donc ils ont multiplié l'affluence par 1000 d'un coup.
C'est assez incroyable. Le lundi matin au boulot, ça devait être sympa du côté de l'US Revel.
Oui, alors ils avaient tous pris leur journée, hein, je vous rassure. Il y en avait pas un qui travaillait ce matin. Voilà, ils avaient décidé de prendre leur journée, de profiter à fond de ce moment. Ils sont partis aussi à mise au vert dès le samedi. Ils ont passé la journée ensemble. Ils avaient vraiment envie de profiter de cette journée et de vivre. En fait, ils ont vécu un week-end comme le vivent les joueurs professionnels. Voilà. Et donc, ils sont pas allés travailler lundi comme les joueurs professionnels la semaine d'un match. Voilà. Mais voilà, tous ont bien dit que voilà, dès mardi, ils retrouvaient leur vie normale au travail avec entraînement le soir à 18h30 et se dépêcher pour sortir du boulot, pour arriver à l'heure sur le terrain d'entraînement. Voilà, c'est la vie qui va reprendre après cette parenthèse enchantée pour les joueurs de l'US Revel.
On a même vu des joueurs du PSG demander un maillot aux joueurs de l'US Revel.
Oui, alors bon, moi je l'ai pas vu, mais il paraît que
Gatté a demandé son maillot à un joueur de Revel. Ouais.
Il paraît. Alors moi, pour avoir été avec les joueurs de Revel après le match en conférence de presse, bon, une des questions qui est le plus revenue de la part des journalistes, c'est vous avez récupéré
le maillot de Mbappé.
Donc ils nous expliquent qu'ils avaient fait un tirage au sort dès le samedi soir pour pas qu'il y ait de problème.
Bon, c'est bien organisé, Revel.
Voilà. Et bon, et moi j'ai posé la question notamment à celui qui a récupéré le maillot de Kylian Mbappé, c'est-à-dire Maxime Zahir, alors qu'il y a une drôle d'histoire avec Kylian Mbappé puisqu'ils se sont joués trois fois déjà en championnat chez les jeunes. Voilà, et donc du coup c'est lui qui a récupéré le maillot de Kylian Mbappé, mais c'était pas lui qui avait été désigné par le tirage au sort, mais Kylian Mbappé, connaissant cette histoire, lui a proposé le maillot et le joueur, le coéquipier a laissé Maxime Ney récupérer le maillot. Et je lui ai demandé, mais Kylian Mbappé vous a pas demandé votre maillot? Et il m'a dit non, celui-là on le garde, il sera encadré, il est collector, donc leur propre maillot, les joueurs de Revel, je comprends qu'ils aient eu du mal à le donner aux joueurs parisiens.
Une soirée incroyable, un moment mémorable, historique pour le club de l'US Revel.
Oui, le président du club, Didier Roch, avant le match, il a parlé brièvement au micro du speaker. Et la première chose qu'il lui a dit, c'est « j'arrive pas à décrocher les yeux de l'écran géant parce que je vois le logo du PSG face à celui de Revel et je n'arrive pas à y croire. »
Donc, le logo avec la halle de Revel.
Voilà, c'est ça, avec le beffroi. Il s'imaginait, il savait qu'ils allaient jouer contre le PSG, mais je pense qu'en arrivant dans le stade, en voyant les deux logos face à face, les mots Revel et PSG sur le tableau où il y a l'heure du stade, ils ont vraiment réalisé et voilà, ils ont dû se pincer même. Mais nous aussi on s'est pincé pour savoir si on était bien.
Oui, parce que c'était pas le TFC qui jouait, c'était l'US Revel.
C'était vraiment l'US Revel contre le PSG. Et voilà, donc on comprend toute la fête. Ouais, c'était l'un des trois ou quatre derniers clubs de régional. Bon, voilà, ils ont vécu une belle aventure. Je pense que ça donne aussi à ces joueurs l'envie de revenir l'année prochaine. Je pense pas qu'ils abordent les prochains matchs de Coupe de France sur les prochaines saisons de la même façon qu'ils le faisaient peut-être jusqu'à présent, parce que je pense que quand ils ont connu ça, la seule envie qu'ils ont, c'est d'y revenir.
Et ben voilà, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite à Revel, à l'US Revel, à son président et à tous ses joueurs. Voilà, c'était très court, mais c'était un plaisir de vivre un petit peu avec vous, Paul, cette aventure revelloise en Coupe de France. On peut retrouver plus d'informations sur l'article qui sortira dans l'édition de cette semaine de La Voix du Midi Lauragais.
Ouais, ben on prépare un dossier qui sera assez fourni, avec notamment une très belle double page de photos. Voilà, puisqu'on avait nous mis en place un dispositif un peu spécial. On a fait un live toute la journée. On avait une journaliste qui était présente sur la pelouse pour prendre notamment de nombreux clichés. Voilà, donc on va retransmettre un peu tout ça, et puis on aura un article aussi très sympa sur justement toutes ces petites histoires qu'il y a eu autour du match PSG-Revel, et plein d'anecdotes et de jolies histoires, comme je le redis, seule la Coupe de France en réserve, c'est vraiment une compétition qui est un peu magique, et voilà, nous on prend beaucoup de plaisir à la couvrir en tout cas.
Et c'est cette Coupe de France qui fait vivre ces moments extraordinaires et magiques. Merci beaucoup Paul Albedel, et on espère vous retrouver pour une autre épopée.
Eh bien, pourquoi pas, oui, nous on est demandeurs, et on suivra nos clubs du Lauragais, voilà, quel que soit le niveau, on les suit dans tous les sports, et voilà, on est derrière eux, on est un peu chauvin souvent, mais bon voilà, on est content de voir de belles performances sportives, voilà, c'est un territoire, le Lauragais, qui est très sportif, avec de nombreux clubs, donc on les suit avec plaisir.
Et tout de suite, peut-être qu'on va en parler d'autres épopées. 2024, une année olympique, mais est-ce que nous sommes peut-être pas un petit peu trop négatifs sur l'organisation des JO à Paris? Alors ça, c'est la question que je pose peut-être à vous autour de la table. Est-ce que Paul, vous voulez participer à ce petit débat ce soir?
Allez, si vous voulez.
Voilà, est-ce que c'est pas trop négatif autour de cette organisation des JO, Paul?
Alors je sais qu'il y a eu pas mal de soucis, notamment avec le basket et les salles. Les salles au niveau du basket, je sais pas si ça a été réglé d'ailleurs ou pas. Moi je peux entendre que des sportifs qui jouent leur une compétition dans leur pays soient déçus peut-être de que les infrastructures soient pas au niveau, notamment, et qu'on les fasse à jouer. Après il y a des soucis d'organisation très certainement. Après il faut que ça reste. Il y a encore un petit peu de temps pour organiser tout ça, donc on va être encore un peu positif et espérer que tous ces soucis soient réglés ici les Jeux Olympiques.
C'est là où je me tourne vers Anne-Françoise, cette dernière chronique que vous nous avez faite sur l'organisation des JO, est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas peut-être un petit peu trop négatif au final?
Ouais, alors moi je me suis renseignée surtout sur la partie impact pour les spectateurs, les habitants de Paris, plus que sur les infrastructures des JO. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de problèmes, que ce soit l'installation d'une piscine, la construction d'une piscine sur des jardins ouvriers, ou la disparition des bouquinistes sur les bords de Seine, par exemple, pour des questions de sécurité, les problèmes de transport qui sont déjà annoncés, voilà. Mais en même temps, on voit aussi, et là vous allez me dire que ça fait un peu réponse de Normand, mais on voit aussi que l'organisation des JO fait des gros efforts pour régler les problèmes, en fait, et que les problèmes se règlent, c'est-à-dire que par exemple les bouquinistes qui ont été du coup sortis pour des questions de sécurité des bords de Seine, leur fameuse boîte vert foncé qu'on connaît tous, qui font partie de l'image de Paris et du patrimoine parisien, elles vont être remises à neuf et réinstallées par l'organisation des JO. Donc au final on s'affole, on s'énerve un peu tout ça, mais finalement les bouquinistes, ils vont être mis en place. Les jardins ouvriers n'ont pas été détruits, n'ont pas été abîmés par la construction de la piscine olympique. Enfin, il y a plein de décisions comme ça, pareil sur les étudiants qui devaient être un peu entre guillemets virés du Crous pendant l'été pour pouvoir avoir des logements pour les bénévoles. Finalement, ça ne va pas se faire. On a l'impression qu'en fait, ils prennent des très mauvaises décisions puis ils font marche arrière. Donc, est-ce que vraiment on peut pas non plus trop critiquer tout le temps l'organisation des JO, même si on sent que c'est quand même très compliqué. On sent quand même que c'est très compliqué, quoi.
Compliqué, mais on va finir par y arriver, peut-être.
Mais c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère.
Alors, il y a du négatif, il y a de l'espoir. Erwan, je lis sur votre visage que vous, l'espoir, il n'y en a plus.
Je veux pas dire qu'il n'y en a plus, mais ouais, effectivement, je vois plutôt des choses négatives. Après, je me rassure un peu en me disant que si on a déjà entendu l'histoire de JO organisés qui se passaient bien, je crois pas, que ce soit pour les Coupes du Monde ou les JO, c'est toujours des projets qui voient trop grand, j'ai l'impression, depuis quelques années. Et là, pour le coup, les JO à la française avaient un peu cette volonté d'être les premiers JO responsables. On va pas construire de nouveaux stades, on va pas construire de nouvelles infrastructures. infrastructures qui demanderaient trop. On va essayer de recycler le plus possible d'anciennes infrastructures, de les rénover pour qu'elles puissent être utilisées après. Même le village olympique, il va essayer d'être, enfin, il aura pour but après de devenir des résidences qui pourraient être habitées. Sauf qu'au final, il y a eu plein de couacs et ça pose beaucoup de questions. Alors, des couacs d'un point de vue des infrastructures sportives directement. Par exemple, Anne-Françoise parlait de la piscine olympique. On se rappelle que, du coup, les épreuves vont avoir lieu dans la Paris La Défense Arena, qui est initialement un stade de rugby.
Et une salle de spectacle.
Et une salle de, c'est vrai, initialement une salle de spectacle et ensuite un stade de rugby, qui ne sera d'ailleurs plus un stade de rugby après les JO parce que le Racing partira de la Paris La Défense Arena. Mais au début, initialement, on a appris récemment que ces épreuves ne devaient pas avoir lieu à la Paris La Défense Arena, mais bien dans une piscine olympique. Cependant, les projets de travaux ont été mal étudiés et effectivement, l'affluence de la piscine qui a été rénovée pour les JO est inférieure de quelques centaines de places au minimum olympique possible. Par conséquent, cette piscine a été rénovée pour le plaisir des riverains, sûrement, pour le plaisir des riverains et des clubs de natation qui y sont. Mais il faut savoir que la rénovation devait coûter 68 millions, ce qui est quand même beaucoup. Pris en charge par la mairie de Paris. Sauf qu'au final, cette rénovation a coûté 128 millions. Voilà, donc ça a coûté plus de deux fois le prix qui était initialement proposé.
Tout en loupant de quelques centaines de places le fait d'être utilisable pour les JO, on est quand même
voilà, et
on coche quand même toutes les cases de l'ubuesque.
C'est ça, et qu'on va du coup organiser ces épreuves dans un stade de rugby. Voilà, là vraiment un camoulox presque. Là, on aurait gagné le jeu. Je pense que Cadmerat serait en train de nous faire des holas devant nous. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai passé là du coup quelques mois à Paris. Alors j'ai eu la chance de pas trop utiliser le métro parisien, qui n'est pas
sympathique.
Je n'ai pas subi, mais je l'ai quand même un peu utilisé parce que je passais dans la ville. Je devais voyager. Il y a rien de mieux que le métro parisien. Il faut avouer que il y a une station je crois. C'est 5 minutes en marchant en moyenne. Il faut pour retrouver une station de n'importe où. Enfin, minimum, je veux dire. Il y a des gros problèmes sur les stations de métro. Alors, le but, c'est que ça soit terminé avant les JO. Mais comme je l'ai déjà dit, on a toujours entendu parler des mauvaises histoires qui se terminent mal dans les organisations de ces gros événements. Et là, on a entendu les nombreux personnes déléguées au transport public, etc., que ce soit à la RATP ou à la région, dire que ça ne va pas bien se passer. Alors oui, après, il y a des gens du comité d'organisation qui disent « ça va marcher ». Mais parce qu'ils peuvent pas vraiment dire le contraire, je pense.
Donc au final, c'est on peut pas dire qu'on est trop négatif, peut-être trop réaliste. Donc on voit que pour l'instant il y a beaucoup de flops sur ces JO et que on verra peut-être le jour J si ceux qui sont pas forcément d'accord avec cette organisation et vu comment ça s'est amené, on pourra uniquement voir ce jour-là si au final on a eu tort ou pas.
Effectivement.
Le jour J nous donnera raison ou non.
C'est tort. Raison ou non, ouais, effectivement.
Merci beaucoup Paul en tout cas d'avoir dit quelques mots sur ce sujet.
Oui, moi je suis surtout inquiet sur la question des transports, hein, parce que c'est vrai que...
Anne Hidalgo a dit que dans tous les cas, ça sera pas prêt.
Ouais, mais...
Comme ça règle la chose.
Je comprends l'ambition de vouloir faire des JO très propres sur le plan carbone, avec une volonté d'amener tous les spectateurs, je crois, via les transports en commun, mais bon, voilà, c'est juste impossible, donc on voit comment fonctionne le réseau, que ce soit le RER ou le métro parisien, avec une affluence normale, entre guillemets. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on sera prêt au niveau des transports, mais bon, on verra, comme vous dites, c'est le moment qui donnera sa vérité.
Voilà, on verra ça donc le jour J. Voilà, nous de faire notre propre idée jusque là et puis ensuite on verra pour ces JO. On termine cette émission avec le pronostic. Vous le savez, on a toujours un petit pronostic en 30 secondes. Aujourd'hui, je vais vous proposer de pronostiquer le match Ulster Stade Toulousain. Erwan, vous avez top départ, 30 secondes pour nous donner votre pronostic.
Alors l'Ulster, c'est une équipe qui réussit plutôt bien au Stade Toulousain. C'est pas la plus faible équipe irlandaise, mais on va dire c'est la seconde plus faible. Il y a le Connacht juste derrière. Donc moi je pense que le Stade Toulousain va plutôt bien réussir, surtout que j'ai vraiment l'impression que les hommes du Gomola, ils favorisent cette compétition européenne cette saison. Ils ont envie de la gagner, on les sent bien plus concernés qu'en top 14. Donc je pense que va y avoir une victoire pas forcément très large, mais une victoire par exemple 25 à 17, en tout cas avec moins de 10 points d'écart, mais avec plus de 7 points.
Attention Anne-Françoise, même exercice en 30 secondes et pas une de plus.
Ouais, alors moi c'est pareil, hein, le Stade Toulousain, je le vois très très investi sur sa Coupe d'Europe. Moi je vois une victoire plus large qu'Erwan, je dirais bien au moins 20 points d'écart, peut-être un 35-12, un 35-15, quelque chose comme ça. Parce que quand on voit comment ils ont brouillonné ce week-end et qu'ils ont quand même réussi à mettre 45-0 au Loup, on peut se dire que si en plus ils décident d'être un peu sérieux, et ben l'Ulster c'est pas non plus. Enfin voilà.
Ah c'est terminé, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Voilà, vous êtes coupé Anne-Françoise. Merci d'avoir été avec nous. Merci Paul.
Avec plaisir et à très bientôt et bonne soirée à tout le monde.
Et merci à Erwan, merci Anne-Françoise. Et on a le plaisir donc de se retrouver la semaine prochaine, même heure, même radio.